Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non. Oui, on...
Bonjour et bienvenue à l'émission bonus de Cinérama où l'on va purger les reportages que l'on a fait pendant le Festival de Cannes cette année. Alors ça ne sera pas une surprise d'apprendre que quand nous allons à Cannes, eh bien nous passons plus clair de notre temps dans les salles de projection. Mais à la faveur des files d'attente, des divers cocktails aussi, on ne va pas se le cacher, eh bien nous tombons sur des personnes qui nous racontent des choses parfois intéressantes qu'on a envie de partager. Alors cette année, on vous propose la rencontre avec Christophe Delors, un producteur indépendant, et avec Solène Edouard, une agent artistique également indépendante. Alors que signifie ici l'indépendance dans le grand univers du cinéma ? Eh bien, on l'apprendra. Voici donc le premier sujet de cette émission spéciale, un court entretien avec Christophe Delors, qui a déjà passé alors près de 10 années au Festival de Cannes et qui défend actuellement deux projets. Pour lui, le festival, c'est un moyen de prendre des rendez-vous pour après.
Bonjour Christophe Delors, vous êtes producteur et vous êtes ici à Cannes pour la 71e édition. Et la question qu'on peut se poser, c'est finalement, qu'est-ce que vient faire un producteur tel que vous, ici, sur la Croisette ?
Comment vous expliquer ? Je vais commencer par vous dire que déjà, pour aller à Cannes, il faut avoir des projets. Ça ne sert à rien d'y aller si vous n'avez rien à y faire. L'idée principale, c'est qu'aujourd'hui, j'ai deux projets. Un projet de film historique, une dimension internationale coproduit avec l'Ukraine et également une comédie un peu plus légère avec un budget plus acceptable. Donc minimum de projets qui permettent de pouvoir intéresser tout un panel de distributeurs, de studios, de chaînes de télé.
Alors ça, on pourrait le comprendre que vous aviez besoin de rencontrer, mais finalement vous êtes parisien, le cinéma est plutôt à Paris, alors pourquoi venir à Cannes ?
Sans doute une petite légende urbaine qui dit que si vous n'êtes pas à Cannes, c'est que vous n'existez plus. Moi j'en suis aujourd'hui à mon 11e festival, avec des déchets assez conséquents sur les premières années, parce que c'est un métier. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir un projet et donc de pouvoir voir les gens à Cannes directement pour prendre des rendez-vous à Paris. C'est assez bizarre, mais on vient à Cannes, on dit on se revoit à Paris et en fait, c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est sur Paris. Mais si on ne prend pas ce rendez-vous à Cannes, on va avoir beaucoup de difficultés à prendre des rendez-vous à Paris après, puisque il y aura plein d'autres producteurs qui seront venus avant vous et qui vous permettront, enfin qui eux vont avoir des projets à proposer et qui ont déjà des rendez-vous. Donc voilà, on va dire c'est une prise de rendez-vous, Cannes.
Cette prise de rendez-vous, est-ce qu'elle est calculée ou est-ce que ça se fait un peu par hasard ? Parce que bon, on a tendance à dire qu'il y a des cocktails un peu partout. Alors est-ce qu'on choisit ces cocktails ? On se dit là je vais voir telle ou telle personne ou...
Alors ça j'y crois pas trop, ça marchait une certaine... Ça a marché quelques années, mes premières années à Cannes, où effectivement on rencontrait des gens dans les cocktails. Je pense qu'il faut préparer en amont, c'est-à-dire on prend depuis Paris, pour le coup, des rendez-vous sur Cannes. On se voit pour des rendez-vous assez courts, en fait, une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes maximum à Cannes, pour reprendre des rendez-vous un peu plus conséquents, donc sur Paris. Je pense que si on ne prépare pas son Cannes, on rate son Cannes.
Pour cette édition, vous avez vu à peu près combien de personnes ?
Ça va vous paraître peu et beaucoup en même temps. Moi, j'ai pris 6 rendez-vous, mais quand on connaît le panel un petit peu de la distribution des chaînes de télé, on a vite fait le tour de la question. Ça dépend des projets. Je pourrais en voir plus sur la comédie parce qu'effectivement, c'est un petit budget. Sur le film historique, c'est plus compliqué. Donc, on s'adresse à des chaînes hertziennes, enfin ce qu'on appelait hertziennes, c'est des chaînes nationales. Pour ce qui est de la distribution, on s'adresse à des gros. Pour le petit film, on peut s'adresser à des distributeurs qui ne sont pas exploitants. Mais bon, l'idée, effectivement, c'est de rencontrer les plus gros pour pouvoir effectivement discuter avec d'autres distributeurs, d'autres chaînes de télé, des chaînes de télé du câble notamment. et éventuellement pour essayer de trouver les nouveaux intervenants que sont Netflix, Amazon, enfin ces gens-là qui sont très difficilement cernables. D'ailleurs, Netflix n'est pas là cette année. Et donc du coup, voilà, on fait les plus gros. On fait les plus gros pour montrer qu'on existe et puis on prend rendez-vous après, si on voit que ça ne fonctionne pas avec les plus gros, avec des sociétés à dimension plus humaine.
Et donc, Christophe Delors, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites quand même à Cannes ? Alors, parce que vous avez expliqué le processus, hein, on prend les rendez-vous et puis après on se revoit à Paris. Mais voilà, est-ce qu'il y a eu des surprises ou des choses un peu inattendues qui se sont déroulées ici ?
Alors, jusqu'à présent, je pense qu'on n'est plus trop dans la surprise. Il y a beaucoup moins de glamour à Cannes, il y a beaucoup moins d'environnement où on signe à Cannes. Aujourd'hui, je suis pas certain que ça soit encore, que ça existe encore. Je le souhaite à certains, hein, s'ils peuvent signer quelque chose à Cannes. Notamment, c'est plutôt au niveau des réalisateurs, scénaristes, auteurs. Qui signe avec des producteurs sur Cannes. Mais le producteur qui va signer avec la chaîne de télé ou le distributeur, j'y crois pas. Enfin, j'y crois plus. Donc, c'est presque un petit train-train, en fait. Hein. Voilà, on est à Cannes, on montre qu'on existe, on montre qu'on est toujours vivant, et on continue à se battre.
Alors Christophe Delors, il serait peut-être pas inintéressant finalement, puisque vous êtes producteur, de rappeler ce qu'est un producteur. Parce qu'on a l'impression que le terme est vague, mais finalement, concrètement, qu'est-ce que vous apportez à un film ou à un projet ?
Alors, la première chose, c'est qu'il existe plusieurs métiers dans la production. On peut être producteur exécutif, producteur, donc tout court, directeur de production, et un certain nombre d'autres métiers. Producteur exécutif, ce qui est mon cas aujourd'hui, en tout cas sur les deux projets. Alors, c'est quoi un producteur exécutif ? C'est quelqu'un qui va gérer l'argent, qui va lever pour autour d'un projet. Donc, ça commence par quoi ? Ça commence par un projet. C'est la base de tout, c'est-à-dire associer un scénario à une idée de production. C'est la base de tout. Donc, en fait, le producteur, son métier de départ, c'est travailler en collaboration avec un auteur pour pouvoir écrire un film, s'il est attaché au projet dès le départ. Après, il arrive aussi qu'on reçoit des scénarios qui sont déjà très aboutis et sur lesquels on s'associe par la suite. L'idée de la production est très simple, c'est qu'aujourd'hui il existe des intervenants, comme le CNC, comme les distributeurs, comme les chaînes de télé, et c'est de recueillir suffisamment de fonds auprès de ses intervenants pour pouvoir monter le film. Voilà. Donc le métier de producteur, c'est un métier de commercial, tout simplement. C'est-à-dire que je vends quelque chose et j'essaye de pouvoir monter mon budget, de le vendre au prix auquel on estime la réalisation. Et d'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est que j'ai eu l'occasion de travailler avec un monsieur qui s'appelait Philippe Hellman, fondateur du GC, directeur du Grand Rex, et qui me disait que, alors je ne sais pas s'il n'avait pas récupéré de Zanuck, qui disait que, en gros, le cinéma, c'est la seule industrie au monde qui ne produit que des prototypes. Donc, c'est la grande complexité pour le producteur, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est pas parce qu'on a des techniques de vente et qu'on a des techniques du réseau, du relationnel, que le projet va prendre. Donc, il s'agit de se remettre en question à chaque fois. Voilà, je pense qu'un bon producteur, c'est quelqu'un qui sait se remettre en question.
Cela dit, on comprend que c'est à chaque fois un prototype, mais en écoutant les exploitants, ça m'est arrivé dernièrement hein, d'ailleurs, hein, l'exploitant qui disait « Mais moi, pour les entrées, j'attends quoi ? Une comédie ? Enfin, j'attends la comédie qui va dépasser les 8 millions, les 9 millions. » Donc on se rend compte que peut-être ce prototype, on essaie quand même de s'approcher de ça, enfin, pour ceux en tout cas qui veulent aller vers les succès.
En tant que producteur indépendant, alors c'est vrai, il y a un certain formatage aujourd'hui. formatage, c'est-à-dire on sait, mais ça a toujours existé, c'est-à-dire que dans les années 70, dans les années 60 c'était plutôt des films expérimentaux, dans les années 70 on a eu pas mal de polars, dans les années 80 c'était plutôt des films ados qui ont fonctionné, tout un tas de choses, il y avait toujours des polars bien entendu, et puis on est rentré dans l'ère de la comédie, il y a toujours eu des comédies qui ont toujours bien fonctionné, c'est toujours les comédies qui ont le mieux fonctionné. Je crois que La Grande Vadrouille a détenu le record d'entrée pendant des années et des années en France.
Avant que les ch'tis ne détrônent.
Voilà, exactement, qui est également une comédie. Donc, il est normal que les exploitants recherchent ce type de film, puisqu'ils savent qu'ils vont faire des entrées. Alors, il y a des choses plus compliquées aujourd'hui, c'est des histoires de casting. C'est-à-dire qu'en fait, il existe 4-5 comédiens qui sont... on va dire « bankable », entre guillemets, puisque c'est le terme employé aujourd'hui, et qui permettent en fait d'assurer un minimum d'entrée. Mais ça, j'y crois pas. Moi, je crois qu'on est capable de proposer des comédies intelligentes sur, ou des sujets qui vont accrocher tout de suite et faire des choses, en tout cas à mon niveau... puisque je suis encore une fois un producteur indépendant, faire des choses qui sont suffisamment attractives, même au niveau de la comédie, pour pouvoir faire un minimum d'entrée. On va pas se mentir, hein, le but du producteur, c'est de faire un minimum d'entrée. Des producteurs qui font des films pour eux-mêmes, ça n'existe plus. Ou alors ils sont eux-mêmes réalisateurs. Et voilà, donc on est, je crois qu'il y a une mutation depuis une dizaine d'années en France où on est vraiment rentré dans l'industrie. Et c'est l'industrie de la comédie, voilà. Bon, on aime ou on n'aime pas. Je ne jetterai jamais la pierre à un producteur qui va faire une comédie qui va faire entre 4 et 5 millions d'entrées. Au contraire, il faut le féliciter. C'est pas mon cœur de métier.
Vous parlez de producteur indépendant, donc ça s'oppose à quel autre type de producteur ?
Alors, c'est un terme un peu galvaudé, c'est pour dire, en fait, ça signifie quoi ? Ça signifie que producteur indépendant, c'est quelqu'un qui a un réseau limité et qui va faire des films ou qui va se mettre sur des projets que l'on dit indépendants. Alors, voilà, donc producteur indépendant pour des films indépendants. Ce sont des films qui sont, ne rentrent pas justement dans des grilles d'achat, qui sont un peu des ovnis, qui sont soit des films, ce que l'on dit d'auteur, mais ça c'est pareil, je trouve que c'est un peu galvaudé, parce qu'à partir du moment où, quel que soit le film, c'est toujours un film d'auteur, il y a toujours quelqu'un qui a écrit derrière. Mais voilà, c'est des films un peu plus pointus, dont on sait que, sauf bonne surprise, le rayonnement sera limité. Un producteur non indépendant, c'est quelqu'un justement qui va être capable de pouvoir gérer surtout une dizaine de projets en même temps, à tous les stades, de l'écriture, de la pré-production, de la production, de la post-production. Enfin voilà, c'est on va dire un producteur, c'est quelqu'un qui ne serait pas indépendant, c'est une société, une grosse société, ou des gens qui ont du métier. Tous les producteurs indépendants tendent à devenir des producteurs. Un jour ou l'autre.
Parfois, il y a une carriole. Combien de conducteurs peut-elle avoir ?
Un.
D'accord, elle n'en a qu'un, mais il se trouve que c'est moi. Si tu modifies ton attitude, tu feras la route avec moi.
Ok.
Je veux que tu te remettes au boulot demain au studio. De toute façon, tu voulais remplacer l'actrice principale. Auditionne pour le rôle le plus de filles possible. Quand tu verras la fille qu'on t'a déjà montrée ce matin, tu diras « C'est elle, c'est la fille ». Le reste de la distribution, ça dépend de toi. Mais le premier rôle féminin, le choix de l'actrice qui jouera ce rôle-là, c'est pas de toi que ça dépend. Après ça, tu me reverras seulement une fois. Si tu te conduis bien. Ou bien deux fois. Si tu te conduis mal. Bonsoir.
Alors quand on est producteur, on a forcément, et vous l'avez dit en début de cet entretien, on a forcément affaire avec les chaînes de télévision ou avec les distributeurs, puisqu'il faut être aussi présent dans les salles. Et ces personnes, elles ont quand même une influence sur le projet. Alors quelle est cette influence finalement sur un film que vous produisez, notamment, est-ce que ce ne serait pas le casting ?
Eh bien, vous avez touché le problème. Oui, effectivement, le casting est devenu la pierre d'achoppement de l'industrie du cinéma français. On peut avoir une très très bonne idée, un film très fort, à partir du moment où on n'a pas le casting, c'est très difficile d'imposer à une chaîne de télé ou un distributeur le film et d'obtenir un financement. C'est là qu'on s'adresse effectivement à des petits distributeurs notamment des chaînes du câble. Oui, ils auront bon dire le contraire aujourd'hui que c'est le producteur qui porte le casting et le réalisateur. On est arrivé aujourd'hui à une certaine mainmise de la distribution du studio, de la chaîne de télé sur l'identité du casting. Maintenant, c'est pas gênant, c'est juste un point supplémentaire sur lequel il faut se battre. Si on est sûr avec le réalisateur, parce que le réalisateur fonctionne toujours avec son producteur. C'est un binôme et c'est extrêmement important que les deux s'entendent à merveille, que ça matche à tous les coups. Si le producteur a un film en tête qui ne correspond pas à la vision du réalisateur, le film ne se fait pas. C'est aussi simple que ça. Et du coup, il s'agit de se battre avec le réalisateur, aux côtés du réalisateur, avec les chaînes de télé et les distributeurs pour imposer un casting qui va être un casting de personnes qui ne sont pas forcément très très connues, mais sur lesquelles le personnage colle parfaitement et avec qui on a déjà fait des essais. J'en suis pas là aujourd'hui. C'est un tout nouveau scénario. Bien entendu, on a des idées. Maintenant, on est ouvert avec les distributeurs parce que le but étant, puisque je parle de la comédie, le but étant de faire effectivement un film sympathique. La distribution, s'ils sont intéressés par le projet, vont faire des propositions de casting et on décidera à la fin. Voilà. Et on décidera, on trouvera des compromis. Mais effectivement, les distributeurs ou les chaînes de télé qui vous disent que c'est pas vrai, que c'est pas eux qui influencent sur le casting, ils influencent très fortement sur le casting.
C'était Christophe Delors, producteur indépendant, ne tardera pas à voir au moins un de ses films produits sur nos écrans. On vous en causera le moment venu. Place maintenant à un autre métier lié au cinéma. Un producteur a besoin d'un film, mais pour convaincre les financiers, on l'a entendu, hein, il a besoin d'un sujet, d'un scénariste, d'un réalisateur et d'un casting, autant d'individus qui peuvent lui être fournis par un agent artistique. Voilà quelques années que Solène Edouard occupe cette fonction. Ça cible les jeunes pousses, ceux qui débutent dans le métier et qui ne sont pas encore phagocytés par les grosses boîtes comme l'agence VMA. On écoute la Parisienne rencontrée à l'occasion de la projection de Solo, le Star Wars à Cannes. Bonjour Solène Edouard, donc on est ici à Cannes et vous c'est un rendez-vous que vous ne manquez pas ?
Ah non, c'est vraiment un endroit où on vient tous les ans, plus ou moins longtemps. Il y a des années où on vient quelques jours et des années où on reste la totalité du festival, mais ouais, c'est un immanquable.
Alors, dans le cadre de votre profession, donc agent artistique pour réalisateur, auteur, scénariste, qu'est-ce que vous venez faire ici ? Est-ce que c'est important finalement d'être ici sur la Croisette ?
Alors c'est important parce qu'on ne sait jamais qui on va croiser sur la Croisette quand même. Et donc c'est important parce qu'il y a tous les gens effectivement qu'on pourrait voir à Paris, mais qu'on ne voit pas forcément, qui sont tous au même moment, au même endroit. Et d'un rendez-vous à un autre, ça amène des rencontres qui sont évidemment spontanées et pas toujours prévues. Et surtout aussi des rencontres entre des gens qu'on n'aurait pas pensé qui allaient bien s'entendre. Et donc au détour d'une soirée, d'un dîner ou une sortie de projection, situation. On va se retrouver entre deux personnes, des personnes qu'on n'avait pas forcément pensé qu'ils pourraient travailler ensemble. Et tout de suite, on va se dire un clic, une envie de faire quelque chose ou pas. Mais ouais, c'est, tout le monde est là et c'est important pour nous d'être là, de faire les connexions qu'on n'aurait pas forcément pensé à faire tout seul dans son bureau à Paris.
On va peut-être en profiter pour rentrer un peu dans le cadre de votre métier. Ça consiste en quoi, en fait, être agent artistique pour un auteur, par exemple, ou un réalisateur?
Alors, ça consiste à lire beaucoup de choses. Donc moi, je lis vraiment tout ce que font mes auteurs. C'est aussi pour ça que je fais ce métier. Et moi, j'adore les histoires, j'adore lire des histoires, j'adore qu'on me raconte des histoires. Et donc, c'est lire vraiment tout ça et essayer avec l'auteur d'imaginer la meilleure manière de développer ce projet. En analysant la situation de l'industrie à un moment donné. Est-ce que cette idée, finalement, ça marche vraiment bien pour le cinéma, ou est-ce qu'on en fait une série télé, par exemple? Est-ce que c'est le moment, et pour aussi les auteurs et les réalisateurs, les deux, est-ce que c'est le moment aussi dans la carrière où on peut arriver avec un projet comme ça? Ou est-ce qu'un projet très ambitieux, peut-être qu'on va le laisser de côté dans un premier temps, et ensuite le ressortir une fois qu'on a fait ses preuves sur autre chose? Donc c'est vraiment beaucoup de lecture. C'est une lecture que j'appelle bienveillante, c'est-à-dire que moi j'ai une lecture d'agent, qui n'est pas une lecture de producteur, qui n'est pas une lecture de comédien sur un film, qui n'est pas une lecture des réalisateurs pour un scénario, mais vraiment une lecture en disant voilà, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas dans ce projet, de le dire de manière extrêmement bienveillante et de se dire comment est-ce qu'on va le faire avancer et dans quelle direction. Et ça se fait vraiment en partenariat et en main dans la main. Avec l'auteur.
Vous êtes une sorte de filtre, parce qu'on dit souvent ça des agents artistiques. Alors pour les comédiens, il peut arriver qu'un producteur ait envie de tel ou tel acteur, qu'il le propose, qui passe pas par l'agent, hein, justement, et qui propose à ce comédien. Et finalement, l'agent va lire, enfin, ce que vous dites, hein, il va lire le scénario, il va se dire non, ça c'est pas pour bon, on va l'appeler mon client, mais ouais. Mon comédien, c'est pas pour lui, parce que ça tombe mal, justement, voilà. Est-ce que vous aussi, vous êtes, cette espèce de filtre qui pourrait empêcher aussi des connexions?
Je le vois pas comme ça, moi je le vois plutôt de manière positive, c'est-à-dire de dire, par exemple, il y a quelques semaines, quelqu'un m'a appelé en me disant voilà, je cherche quelqu'un pour écrire un scénario, j'ai pensé à machin chez toi, un tel, parce que j'ai lu un de ses scénarios, qu'on n'était pas forcément sur le sujet, ne nous plaisait pas, mais on a beaucoup aimé l'écriture, par exemple. Il m'a dit, donc j'ai ce projet, c'était l'adaptation d'un texte qui était déjà écrit. Qu'est-ce que t'en penses? Je lui ai dit, bah écoute, tu m'envoies le texte que j'ai lu. Et je l'ai rappelé, je lui ai dit, écoute, oui, pourquoi pas, cet auteur que tu m'as dit. Par contre, j'ai aussi une autre proposition à te faire. Donc au lieu de te faire une proposition, je vais t'en faire deux, qui vont être très différentes, avec une analyse très différente, parce que je connais justement les auteurs et je sais ce qu'ils sont capables de faire. Donc c'est pas forcément une espèce de filtre, mais c'est aussi essayer de savoir exactement ce qu'on cherche et de se dire peut-être que ça va marcher, c'est une très bonne idée, mais il y en a peut-être une autre auquel on n'aurait pas pensé et qui était là. Et moi c'est plutôt ça que je vois ça plutôt qu'un filtre, c'est-à-dire une lecture où moi je connais mes auteurs, je sais ceux qui travaillent vite, je sais qu'ont besoin de plus de temps, je sais ceux qui aiment travailler avec les autres, je sais ceux qui préfèrent travailler tout seul puis rejoindre les autres. Donc tout ça c'est des facteurs à prendre en compte et donc d'essayer de proposer un choix qui va nous sembler aussi pertinent et peut-être un petit peu différent, et d'avoir des choses qui, évidemment, avoir des films qui vont rien avoir l'un avec l'autre, mais qui peuvent être intéressants les deux.
Ça amène une question, Solène Edouard, c'est savoir finalement comment vous choisissez vos auteurs. Ou est-ce que c'est eux qui vous choisissent, qui vous appellent, qui vous disent « bon, j'ai besoin que vous m'introduisiez dans le métier ».
Alors, on se choisit des deux côtés, hein. On ne se marie pas, mais c'est un vrai partenariat. Enfin, moi, je, J'accompagne beaucoup d'émergents, donc des gens qui démarrent dans le métier. Donc l'idée, c'est vraiment de les accompagner sur un bout de chemin. Donc il faut qu'on s'entende, il faut qu'on ait envie de prendre un café. Là, voilà, moi, je suis à Cannes, je croise des gens que je représente, il y en a quelques-uns qui sont là. J'ai envie de m'arrêter à une table avec eux et de prendre un café avec eux et de pareil, d'avoir envie de les prendre au téléphone et de se raconter aussi des choses qui ne sont pas des choses du métier. Donc pour moi, c'est important la connexion personnelle, mais ça, c'est mon point de vue. Tout le monde ne va pas forcément penser à ça. Et puis, moi, j'ai besoin de croire en leurs histoires. Pas forcément des histoires que moi, j'irai voir. Enfin, c'est que moi, j'irai voir à la télé ou que j'irai voir au cinéma, etc. Mais j'ai besoin de voir que ça colle à quelque chose, à des envies, à ce qu'on peut faire ou des propositions très originales. Voilà. Et puis, moi, je suis assez impliquée. C'est aussi pour ça que ce Cannes, il est un peu spécial cette année sur toutes les questions de parité. Et donc, moi, aujourd'hui, j'ai pas une agence dans laquelle j'ai autant de talents femmes que de talents hommes. Et donc c'est vrai que moi je vais aussi aller chercher des scénaristes, des autrices et des réalisatrices et faire en sorte qu'elles aussi elles soient représentées. Donc je vais aussi un peu à la chasse, mais plutôt sur les femmes.
Alors comment ça se passe quand on part à la chasse dans un festival qui est quand même, qui brasse du monde?
Celui-là, il est un peu grand Il y a plein d'autres festivals en France où on peut rencontrer des talents émergents. Celui-ci, ça peut être une première rencontre, une première, justement, quelqu'un hier dans une soirée qui me dit une jeune femme, je cherche un agent. Je lui dis on va se reparler, on va se revoir à Paris, pourquoi pas, en fonction de ce qu'il y a. Moi, ce qui est aussi important pour moi, c'est que les talents ne soient pas en compétition les uns avec les autres et donc que tout le monde n'ait pas les mêmes types de projets. Donc, je vais aussi aller chercher des gens qui ont des projets que moi j'ai pas déjà dans l'agence pour éviter d'avoir tout le monde sur le même chose. Donc Cannes, c'est un peu grand pour aller chercher et puis les gens qui sont ici à Cannes pour avoir une accrète, il faut déjà avoir fait pas mal de choses, etc. Mais il y a plein d'autres festivals où j'ai rencontré plein d'autres gens.
Est-ce que combien vous suivez de personnes?
Une quarantaine, environ 40.
Et ces 40 personnes, est-ce que vous arrivez toujours à les caser, pour parler vulgairement, ou est-ce que vous arrivez toujours à leur fournir des projets?
Pas toujours, c'est compliqué, surtout au cinéma. Le cinéma, c'est long, c'est très long, c'est des temporalités qui prennent plusieurs années, etc. Donc il y a accompagner toute cette patience. C'est pas parce qu'il se passe rien qu'il n'est pas vraiment en train de se construire des choses. Donc pour moi, c'est aussi ça notre rôle des agents, c'est de les accompagner dans ce parcours, de comprendre que la temporalité du cinéma, elle est très complexe. En France, on fait pas les films comme ça, mais plusieurs années, et de se dire qu'on est quand même en train de faire quelque chose, même si on n'est pas là à la caméra derrière en train de faire un film, ou qu'on n'est pas en train d'écrire. Les auteurs, ils écrivent toujours, ils ont toujours des nouvelles idées, etc., etc. Donc ça, c'est pas pareil.
Solène Edouard, comme vous êtes agent artistique, mais pas pour des acteurs. Est-ce que vous pensez que c'est les mêmes qualités qui jouent dans les relations que vous pouvez avoir avec les producteurs et...
Les mêmes qualités, oui. Moi, je pense que c'est la volonté vraiment de faire en sorte que les gens donnent presque, enfin, aillent au-delà de ce qui était possible. Donc, de les accompagner sur un parcours pour qu'ils puissent dépasser ce qu'on avait imaginé. Donc, pour moi, c'est les mêmes qualités. C'est une vraie bienveillance qui est moins importante envers mes talents et aussi envers les producteurs avec lesquels on travaille. Pour moi, c'est vraiment fondamental. Et puis, cette envie de regarder dans la même direction ensemble et d'essayer toujours de trouver des solutions. Et ça, c'est important, et ça, je trouve que c'est aussi le rôle d'un agent, d'essayer toujours de ne pas se dire on a un problème, on n'est pas d'accord, on a des négos qui sont compliqués, de toujours aller chercher une solution, parce qu'il y en a, et il faut être créatif, très créatif, et ça, je pense que c'est dans les qualités de tous les agents.
Donc chaque agent a en moyenne 80 comédiens. On les aide à trouver des rôles, on négocie leurs contrats, on les accompagne dans la gestion de leur carrière. En échange, on prend 10% de la rémunération. Alors, je te présente Hervé, l'assistant de Gabriel Sarda. Noémie, l'assistante de Mathias Barneville.
Bonjour.
Et... Pardon, comment tu t'appelles déjà ?
Camille.
Camille, voilà. Donc Camille, tu te mets là, dans un premier temps, tu prends tous les appels, tu notes tout, et tu ne dis rien d'autre qu'elle est en rendez-vous à l'extérieur, ok ? Surtout, tu dis pas, elle vous rappellera, ok ? À toutes.
Il y a une série qui s'appelle 10%, voilà.
J'adore.
Donc, il est question d'agents, donc ils prennent 10% effectivement sur les contrats. Est-ce que c'est votre cas ?
Oui, c'est mon cas. Voilà, c'est mon cas. Sur un contrat, sur la valeur totale d'un contrat, je prends 10% en plus Donc c'est pas 10% en moins, c'est 10% en plus que je facture au producteur. Et je suis payé en fait, au même moment que mes talents. Donc à chaque fois qu'eux ont une rémunération, je fais une facture de 10% de cette rémunération qui m'est payée directement par le producteur.
C'était Solène Edouard, agent artistique rencontré sur la Croisette.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui?
Il n'a pas contrôlé qui est, qui.
Quoi, qui est qui?
Bah quoi, qui est qui, quoi?
Eh bien, qu'y a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
On en a fini avec cette émission qui contenait les reportages effectués pendant la 71e édition du Festival de Cannes. Passez un bel été.